Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, la dernière fois, nous étudions la création, et une des premières choses qui sautent à nos pauvres yeux de mortels, c'est que le mal est présent dans la création. Et cela, évidemment, a de quoi troubler. Nous allons donc étudier avec saint Thomas le mal dans la création. Cette réponse est théologique, elle est parfaitement juste, elle est très profonde, mais elle a besoin d'être complétée avec la réponse du Notre Père, « Délivrez-nous du mal », commentée par le catéchisme du Concile de Trente, qui va donner à cette réponse un caractère de nourriture pour nos âmes. Donc, deux parties à ce sermon. La première, la réponse plus théologique de saint Thomas. Qu'est-ce que le mal? Dieu est-il l'auteur du mal? Et saint Thomas commence par nous montrer que le mal n'est pas quelque chose, mais l'absence de quelque chose. Le mal, on pourrait dire, ce n'est pas la planche, mais le trou dans la planche. En quel bois est le trou? Mais il n'y a pas de bois, puisque c'est un trou. Effectivement, il devrait y avoir du bois. Cette analyse est très importante, parce que sinon, on ne peut pas comprendre comment le mal existe alors que Dieu est bon. Saint Thomas distingue trois sortes de maux. Le mal physique, le mal de peine et le mal de faute. Le mal physique n'est pas un vrai mal. Disons qu'il est un mal pour celui qui le subit, mais il n'est pas un vrai mal si nous montons au niveau de toute la création. Par exemple, l'arbre perd ses feuilles. Cela paraît être un mal. Seulement, c'est le cycle normal de vie de l'arbre et qui prélude au printemps. Un animal est aveugle. Pour cet animal, c'est un mal. Mais si nous regardons l'ensemble de cette espèce animale et même l'ensemble de la création, nous voyons bien que l'animal n'a pas un droit à voir parce que sa nature est ainsi faite qu'il est mortel et qu'un jour il mourra et qu'il est faillible et qu'il lui arrive de défaillir et qu'il arrive que les choses ne se passent pas comme on l'attend toujours. Et pourquoi ce n'est pas un vrai mal? Parce que Dieu a fait du bien, seulement il n'a pas fait plus de bien, il n'a pas fait un bien que nous attendions. Et nous, de notre petit point de vue, évidemment c'est un mal, mais du point de vue de Dieu, Dieu nous répond, mais pourquoi me reproches-tu d'avoir fait du bien, de ne pas en avoir fait plus? Qui es-tu pour me parler ainsi? Il faut lire le livre de Job, lorsque Dieu fait la leçon à Job, en lui disant, « Étais-tu avec moi quand les abîmes ont été établis? Étais-tu avec moi lorsque les étoiles ont été mises dans le ciel? Alors pourquoi me parles-tu ainsi et me fais-tu des reproches ?» Quand il s'agit de l'homme, le mal, évidemment, touche sa volonté. Soit parce que sa volonté est mauvaise, et c'est le mal de faute, soit parce que sa volonté rechigne à ce qu'il subit, et c'est le mal de peine. Or, ce sont ces deux mots qui comptent pour nous les hommes, le mal de faute et le mal de peine, parce que ce sont les deux qui nous atteignent. Saint Thomas pose alors la question, le mal de peine, le mal de faute, lequel est le plus grave? Et il dit, bien entendu, le mal de faute est un vrai mal, car seule la faute rend l'homme mauvais, et elle s'oppose au bien divin. Tandis que les autres maux ne s'opposent pas au bien divin. Et c'est cela qu'il faut que nous comprenions, que nous ne sommes des créatures, nous ne sommes pas le Créateur, nous n'avons rien à exiger de Dieu. Quant au mal de peine, dit-il, elle est une œuvre de justice, parce que soit le sujet n'a pas le droit à ce qu'il désire, il n'a pas à l'exiger, soit parce qu'il doit être puni. La peine étant une œuvre de justice est en réalité un bien. Et quand on parle de la peine, il faut même inclure la privation de la grâce sanctifiante, la privation de la gloire éternelle, les damnés qui n'entreront pas au ciel. Ce mal est un mal, évidemment, et cependant c'est en même temps un bien, parce que c'est l'exercice de la justice de Dieu qui prive le coupable de ce à quoi il n'a pas droit, et qui punit le coupable pour obtenir son amendement, c'est-à-dire sa conversion. Le damné, évidemment, ne peut plus se convertir, mais il a ce qu'il a mérité. Et l'enfer, dans l'œuvre de Dieu, est un bien qui rétablit la justice de Dieu. Quant au mal de peine qui est infligé par Dieu pour obtenir la conversion, il est un bien, puisqu'il nous permet justement de réparer le mal de la faute que nous avons commis. Il y a aussi une vérité dont saint Thomas ne parle pas ici, mais dont la théologie parle, c'est le péché originel. Il y a une conséquence au péché originel, c'est justement cette peine solidaire, un petit peu comme lorsque un père riche a dilapidé sa fortune, l'enfant a perdu cette richesse sur laquelle il comptait et qui était un petit peu sur laquelle il avait plus ou moins droit parce que c'était son héritage. Les païens ou ceux qui n'ont pas la foi, lorsqu'ils constatent le mal, nous objectent très souvent la souffrance des enfants dans les hôpitaux, par exemple, des enfants malades, et ils disent comment Dieu peut-il permettre cela ? Bien justement, Dieu le permet, il ne le veut pas. Il le permet comme il permet la mort, parce que la mort est le passage pour la vie éternelle. Il le permet comme il permet que quelqu'un soit aveugle, parce que nous n'avons pas droit. Alors on va dire évidemment, mais c'est terrible, ces enfants n'ont rien demandé pour souffrir. Et Dieu pourtant leur fait des grands biens. Et c'est là qu'il faut passer au commentaire de la demande du Notre Père, délivrez-nous du mal, commentaire avec le Concile de Trente, parce que sinon on s'enferre dans une réponse théologique qui reste malgré tout trop sèche pour nos pauvres cœurs humains. La grande réponse au mal, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Lorsque des païens vous disent « ce n'est pas normal que les enfants souffrent », nous pouvons leur répondre « est-il normal que notre Seigneur ait souffert sur la croix ?» Évidemment, ils peuvent insister en disant « mais ce n'est pas le mal de notre Seigneur qui justifie un autre mal ». Seulement, voilà, cela nous fait quand même comprendre, d'une part, que nous n'avons rien à réclamer à Dieu, et d'autre part, que nous sommes nés dans le péché, par le péché originel, et qu'il est normal que des hommes nés dans le péché ne jouissent pas de tous les bienfaits qu'on donnera à des amis, à des égaux, mais non pas à des inférieurs révoltés. Et c'est un paradoxe que les pécheurs qui méritent le moins d'être préservés du mal sont ceux qui s'offusquent du mal. Et les saints, qui sont d'une certaine manière ceux qui mériteraient le plus d'être préservés du mal, sont ceux qui comprennent le mieux que le mal est normal, et voire même que certains maux sont des biens. Je voudrais vous faire remarquer, avant d'entrer dans le commentaire du Concile de Trente, qu'il faut d'abord voir tout le bien que le bon Dieu fait pour nous, et ce bien est considérable. Nous pourrions dire que le mal, bien qu'il soit très présent, reste malgré tout une exception. Combien de choses dont nous jouissons en paix, même si le mal est très présent. Première remarque du Concile de Trente. Comment doit-on demander d'être délivré du mal ? Après avoir demandé dans le Pater, dans notre Père, à éviter la faute, nous demandons, dans la présente demande, à être délivré de la peine. Et le Concile de Trente fait remarquer que on ne peut demander à être délivré du mal, on ne peut légitimement prier Dieu de nous délivrer du mal, que si on a commencé par les premières demandes du Notre Père, à savoir si nous avons demandé que le nom de Dieu soit sanctifié, que son royaume arrive, parce que lorsqu'il commente la demande que votre volonté soit faite, et elle dit, le Concile dit, c'est déjà une demande pour être délivré du mal, parce que nous n'avons pas fait la volonté de Dieu, et nous voulons sortir du péché qui consiste à ne pas faire la volonté de Dieu. Alors celui qui n'a pas commencé par demander que la volonté de Dieu se fasse, c'est-à-dire qu'il n'a pas demandé la grâce pour faire la volonté de Dieu, comment peut-il légitimement demander à être délivré du mal ? La remarque suivante du Concile de Trente, c'est qu'il faut tout rapporter à la gloire de Dieu. Et cela, c'est très important. Nous avons, nous, un point de vue de créature inférieure. Nous avons beaucoup de mal à rapporter les choses à la gloire de Dieu. Et les païens ne prient Dieu, plus ou moins bien, que dans leur intérêt à eux. Mais nous, nous prions Dieu parce que nous reconnaissons sa supériorité. Et nous reconnaissons que Dieu est notre principal refuge et notre seul soutien. Parce que nous l'adorons comme auteur de tout bien, comme notre unique libérateur. Le catéchisme nous explique ensuite quels sont les maux dont nous demandons d'être délivrés. Et il commence par cette remarque. Il y a des choses que l'on regarde habituellement comme des maux et qui néanmoins sont très utiles à ceux qui les endurent. Ainsi, cet aiguillon de la chair que ressentait vivement saint Paul servait avec le secours de la grâce à affermir sa vertu dans la faiblesse. Voilà pourquoi les personnes de piété, connaissant le prix et les avantages de ces épreuves, les supportent avec une très grande joie et bien loin de demander à Dieu d'en être délivré. Et donc, nous devons demander à Dieu d'être délivré des maux qui tourneraient au mal pour notre âme, mais non pas de ceux qui sont profitables à notre salut. Nous devons faire également attention de demander à être délivré, de demander à Dieu d'être délivré des biens qui pourraient tourner à notre mal, comme les richesses, les honneurs, la santé. Sainte Rose de Lima, par exemple, qui était très belle et qui craignait d'être demandée en mariage alors qu'elle avait fait le vœu de virginité, s'est défigurée. Elle a coupé ses cheveux et elle s'est plus ou moins défigurée, mais elle se rendait bien compte que certains biens peuvent être en réalité de grands dangers et donc des risques de devenir des maux. Et puis le Concile, le catéchisme du Concile, nous énumère les maux qui sont vraiment des maux à craindre. Par exemple, la mort subite, à cause de laquelle nous risquons d'être emportés dans la mort sans avoir eu le temps de nous préparer. Le mal dont nous demandons à être délivrés, c'est la colère de Dieu, de ne pas encourir les châtiments réservés aux impies, de ne pas passer par le feu du purgatoire. Nous demandons également la délivrance des âmes du purgatoire. Et vous avez dans les litanies des saints cette liste de maux que l'Église a mise et pour lesquels nous supplions Dieu d'être délivrés. Enfin, le catéchisme du Concile de Trente dit que les consolations que Dieu accorde dans l'adversité sont une véritable délivrance de tous les maux. David, par exemple, disait « Vos consolations, Seigneur, ont rempli mon âme de joie à proportion même des cruelles douleurs que j'éprouvais. » Vous avez M. l'abbé Lapra, qui fut prêtre de la Fraternité Saint-Pilis, qui, avant même son ordination, était déjà atteint d'un cancer, qui a subi, je crois, 70 opérations chirurgicales. Et il est resté le ventre ouvert pendant des mois parce qu'on essayait de guérir la plaie. Et quelquefois, il lui arrivait de se plaindre. Et aussitôt, il se reprenait. Il disait « Encore, mon Dieu, encore !» Et l'infirmière lui disait « Mais vous ne trouvez pas que vous avez assez souffert? Pourquoi vous demandez encore ?» Et il ne répondait rien, seulement « Si, mon Dieu, encore !» Monseigneur Lefebvre avait une très grande affection pour ce prêtre qu'il a ordonné en avance parce qu'il a la joie de pouvoir être prêtre et célébrer la messe, qu'il ne mourut que quelques années après et que Monseigneur visitait volontiers. Enfin, le mal dont nous demandons à être délivrés, c'est évidemment le démon qui résume tous les maux. Et le Concile de Trente va terminer par un très beau paragraphe sur la patience nécessaire dans les maux et dans les épreuves. Si nous ne sommes pas délivrés des maux dont nous souffrons, alors nous devons les supporter avec patience, avec cette conviction que Dieu désire extrêmement nous voir endurer ces maux. Donc pas d'indignation, dit le Concile, pas de tristesse si Dieu ne nous exauce pas. Ne devons-nous pas nous soumettre à sa sainte volonté, à son bon plaisir ? Nous devons regarder comme utiles et salutaires les choses que Dieu approuve, même si elles ne nous plaisent pas. Et le catéchisme nous demande à nous les prédicateurs de bien montrer aux fidèles qu'ils doivent être prêts, tant qu'ils sont sur la terre, à supporter les incommodités et même les calamités sans se plaindre et même avec une certaine joie. Monseigneur Lefebvre posait la question, qu'est-ce qui dominait dans l'âme de Jésus et de Marie sur la croix au calvaire, la peine ou la joie? Et il répond, la joie, bien sûr. Et il termine ainsi, si nous savons nous présenter devant Dieu avec les pensées et les dispositions que nous venons d'énumérer, de marquer, nous obtiendrons infailliblement ou bien d'être entièrement délivrés de tous les maux, ou bien de supporter l'adversité avec un courage à toute épreuve. Je terminerai par une belle histoire. Je me demande si je ne vous l'ai pas déjà racontée. Cette petite fille qui était paralysée, ses parents demandent à Monseigneur de Ségur, qui lui était aveugle, une messe qui va clore une neuvaine de prières. Et ils disent à la petite fille, pendant la messe, tu vas bien demander ta guérison au bon Dieu. Après la messe, les parents disent à la petite fille, alors tu as bien demandé ta guérison, et la petite fille ne répond pas. Alors les parents s'inquiètent et disent, mais enfin quoi? Puis la petite fille finit par dire, mais quand j'ai vu ce prêtre qui était aveugle, j'ai dit, mais non mon Dieu, c'est pas moi qu'il faut guérir, c'est lui. Alors les parents rapportent la chose à Monseigneur de Ségur, qui dicte une lettre pour cette petite fille. « Oh, ma petite fille, comme vous m'avez joué un vilain tour, de demander que je sois délivrée de la cécité. Vous voyez, ma petite, ces maux-là sont des grands biens. Il faut les aimer, il faut surtout pas demander au bon Dieu de nous en délivrer. Alors, nous allons désormais être compagnons d'infortune, moi, aveugle, vous paralysés, et nous allons bien aimer le bon Dieu. » Si nous n'avons pas cette vue chrétienne de la souffrance à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, il est évident que le mal sera pour nous un scandale, comme il l'est pour tant et tant de païens. Mais si nous mettons toutes nos peines entre les mains de la Sainte Vierge, alors nos peines se tourne en joie, Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.